Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, je dois présenter mes excuses parce que je suis arrivé en retard. Et voilà, aucun retard n'est excusable, en tout cas en ce qui me concerne. Mais plutôt que de m'essouffler à courir jusqu'ici pour arriver à l'heure, j'ai préféré quand même marcher. Et donc, je vous présente mes excuses pour ce retard. Comment a été votre semaine? Peut-être avez-vous vécu des frustrations, des déceptions, des moments où vous vous êtes dit « à quoi bon ?» Peut-être. Je ne sais pas si c'est ce genre de semaine que vous avez vécu. Vous n'êtes pas alors les seuls à le penser. Et l'Ecclésiaste en connaît un rayon. Nous l'avons vu depuis déjà 3 semaines. Et c'est le troisième dimanche, nous poursuivons notre série de prédications intitulée « La vie telle qu'elle est ». Et je suis conscient. Et tout à l'heure, quand David a lu le texte, je pense qu'on l'a aussi senti, qu'il y a de la lourdeur lorsque nous abordons ces textes. Il y a quelque chose qui pèse lorsque nous lisons, en fait, cette réalité qui est la nôtre. Et en même temps, reconnaissons qu'il y a de la sagesse aussi, de la sagesse qui ôte toutes nos illusions concernant la vie, qui barre la route à toute tentative de fuite par rapport à la réalité. Lorsqu'on lit cela, on ne peut pas fuir la réalité. Elle nous décrit le monde dans lequel nous vivons. Elle nous décrit la vie telle qu'elle est. Cette réalité, c'est que rien dans notre condition humaine n'échappe à la vanité. Rien n'échappe à la futilité. Rien n'échappe à la frustration. C'est une réalité pour les croyants comme pour les non-croyants. Et cette condition humaine, elle est universelle. Et il en est ainsi depuis la désobéissance d'Adam et d'Ève, depuis ce moment que nous appelons la chute. L'entrée du péché a tout corrompu dans la création, et c'est pourquoi nous déplorons que la vie soit ainsi. Au commencement, Dieu n'avait pas créé le monde pour la futilité. Donc il nous faut faire avec, et je ne dis pas cela avec défaitisme ou avec fatalisme, il nous faut faire avec. Mais en regardant ce que Dieu fait, en regardant aussi ce que Dieu donne, en recevant ce que Dieu donne au milieu de cette condition misérable. Et c'est vers là que le Cohélète nous oriente, comme nous l'avons lu ce matin. Dimanche dernier, nous avions suivi la première partie de cette enquête sur la vie. Le Cohélète raconte tout ce qu'il a observé sous le soleil. Il est parti à la quête de la sagesse, à la quête de la connaissance, en constatant que finalement, eh bien, cela ne changeait pas grand-chose à la condition humaine. Il s'est essayé à la folie, au plaisir de la vie. Il a fait de grandes réalisations. Il dit avoir surpassé tous ceux qui étaient avant lui. Mais là non plus, la satisfaction n'était pas au rendez-vous. Le Cohélète en conclut que tout est vain et poursuite du vent. Alors, il ne faut pas comprendre ici qu'il n'y a aucune utilité dans ce que fait l'homme. Mais plutôt qu'au bout du compte, dans tout ce qu'il fait, il reste toujours quelque chose de fragile, de frustrant, de misérable, de décevant. C'est inévitable. Et ce matin, nous allons regarder la suite de cette enquête. La vie, l'enquête, deuxième partie. En retenant 3 enseignements. D'abord, qu'il vaut mieux être sage dans la vie, mais que la mort met les compteurs à zéro. Deuxièmement, que le travail est inévitablement pénible et frustrant. Et troisièmement, qu'au milieu de notre dur labeur, Dieu donne dans sa grâce. Alors, regardons ce premier enseignement à partir des versets 12 jusqu'à 17. Il vaut mieux être sage dans la vie, mais la mort met les compteurs à zéro. Après avoir fait le constat sur tout ce qu'il a réalisé, le Cohélète revient au thème de la sagesse et de la folie. Et j'ai rappelé à l'instant qu'il en avait fait les objets de sa quête. Et voici ce que nous lisons au verset 12. « Puis j'ai considéré et examiné la sagesse, ainsi que la folie et la déraison. Qu'en sera-t-il de l'homme qui succédera au roi? Il fera ce qu'on a déjà fait par le passé. » Le thème de la succession est mentionné ici, et nous en parlerons encore tout à l'heure. Et le Cohélète le sait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Celui qui lui succédera n'aura pas de meilleure chance que lui dans ses entreprises. Et si les tentatives du Qohelet d'essayer de fuir finalement ce qui est dérisoire dans cette vie, si ces tentatives ont échoué, eh bien il ne faut guère espérer que celui qui viendra après fasse mieux que lui. Mais s'il faut choisir entre sagesse et folie, quelle serait la meilleure option dans cette vie ? Bien sûr, lorsque le Qohelet compare l'une et l'autre, eh bien son évaluation penche sans surprise du côté de la sagesse. Il y voit un avantage. Un avantage tout comme la lumière est préférable aux ténèbres. Et tout l'enseignement biblique nous encourage effectivement à prendre la voie de la sagesse. Lorsqu'on lit la Bible, ça va uniquement dans ce sens-là. L'enseignement biblique nous encourage à nous conduire dans la vie avec sagesse, à prendre des décisions sages qui tiennent compte de ce que Dieu dit. Le livre des Proverbes associe d'ailleurs la sagesse à la crainte de l'Éternel. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, l'apôtre Paul écrit ceci dans sa lettre aux Éphésiens. Éphésiens 5, versets 15 à 17. « Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu, ou quelle est la volonté du Seigneur. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. » L'enseignement biblique va dans ce sens-là, nous appelle à suivre la voie de la sagesse. Cependant, la sagesse ne permet pas d'échapper à notre condition humaine. Il y a un avantage, c'est certain. Mais ce qui est déplorable, c'est que la mort met un terme à cette vie vécue avec sagesse. La mort remet les compteurs à zéro, de telle sorte que la différence entre le sage et l'insensé s'estompe. D'où ce raisonnement que nous avons au verset 15, un raisonnement qui nous semble légitime. « Je vais connaître le même sort que l'insensé. À quoi bon avoir été plus sage ?» Face à la perspective de la mort, du sort qui est universel, eh bien le Qohelet interroge l'utilité de la sagesse. À quoi bon ? À quoi bon être plus sage dans cette vie si finalement je termine comme l'insensé ? Eh bien en fait, l'utilité est bien là, mais elle demeure limitée. Et comme tout ce qu'il a déjà dit, eh bien, cela fait partie des choses que le Qohelet trouve déplorables dans cette vie. Nous devrions aussi d'ailleurs déplorer cela, déplorer qu'il en soit ainsi. La mort est non seulement l'interruption de la vie sur terre, mais elle est aussi accompagnée de l'oubli. Alors bien entendu, certains ont leur nom gravé dans l'histoire, en bonne ou en mauvaise part. Nous nous souvenons encore aujourd'hui de Jules César, de Martin Luther, de Mozart, mais aussi d'Hitler. Mais pour la plupart des êtres humains, le sage comme l'insensé finissent par disparaître de la mémoire des vivants. Et peut-être que ce sera le cas pour vous et moi. Nous serons oubliés d'une manière ou d'une autre à l'avenir. Et c'est vrai, l'histoire ne retient pas le nom de tous ceux qui ont été sages par le passé. Peut-être quelques sages nous sont parvenus. La sagesse a donc un avantage bien limité à cause du terme de la vie. Et si la vie est ainsi, le Qohelet exprime qu'il n'aime pas la vie. Si la vie est ainsi, il n'aime pas la vie. Et d'ailleurs, il le dit même de manière encore plus forte, verset 17, « Alors j'en suis venu à haïr la vie, car tout ce qui se fait sous le soleil m'est apparu détestable, parce que tout est dérisoire, autant courir après le vent. » Encore une fois, nous pourrions trouver le Qohelet trop négatif. Certains lui répondraient « Tu as tort, la vie est belle. Justement, si demain nous mourrons, il faut en profiter. » Cette manière de penser, que si demain nous mourrons, il faut en profiter, cette manière de penser, eh bien, conduit pourtant beaucoup à profiter de la vie d'une manière déraisonnable, voire excessive. Or, le Qohelet ne veut que nous montrer dans ce texte la réalité telle qu'elle est. Et si la vie se termine par la mort, alors tout ce qui se fait ici-bas a quelque chose de dérisoire. Pensez à ces auteurs ou à ces artistes qui meurent avant d'avoir achevé leur œuvre. Tel sportif qui meurt alors qu'il avait une carrière prometteuse. Et on pourrait multiplier les exemples. Et la suite du texte va justement questionner toute la peine que l'être humain se donne dans son travail. Si la vie a un terme, à quoi bon se donner autant de peine ? Et je vous l'accorde, ce qui est douloureux, mes amis, mais voilà, le texte biblique nous va dans ce sens-là. Ce qui est douloureux, c'est qu'il faut soutenir d'un côté que la sagesse est bonne, elle est préférable à la folie, et que de l'autre, eh bien, cette sagesse a ses limites, puisque la mort remet les compteurs à zéro. Le sage n'échappe pas plus que l'insensé à la mort. Et si cette réalité est universelle, s'il en est ainsi, c'est parce que l'homme a péché. L'homme a désobéi à Dieu et la sanction prévue est tombée. Rappelons le commandement que Dieu a donné à Adam. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et après cette désobéissance d'Adam et d'Ève, eh bien Dieu dit à l'homme, Genèse 3, verset 19, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Nous n'avons pas fait exception, puisque nous sommes aussi pécheurs. Je ne peux me contenter de dire que c'était la faute de nos premiers parents. Tant je vois combien je suis responsable de mes péchés, de mes propres péchés. Et le fait de savoir que cette vie a un terme nous donne malgré tout un goût amer. Dans tout ce que nous pouvons entreprendre, nous savons que la vie peut s'arrêter. Nous ne pouvons nous empêcher de constater que le péché a tout gâché. De toute évidence. La vie telle qu'elle est reste profondément insatisfaisante. Et nous en sommes responsables. C'est pourquoi le Qohélète a des mots aussi forts. Il hait, il déteste cette vie ainsi gâchée. Et Sylvain Romerowski défend l'idée suivante, et je vous lis ce qu'il écrit. S'il en est venu, donc il parle du Qohélète, s'il en est venu à haïr la vie présente, c'est parce qu'il l'aime. Et qu'elle a du prix à ses yeux en tant que don de Dieu. Le Qohélète aime la vie, mais il la hait en tant qu'elle est bien trop en deçà de ce qu'elle devrait être, bien trop misérable par rapport à ce qu'on devrait pouvoir en attendre. Pourquoi le Qohélète hait la vie, déteste la vie ? Parce qu'elle est en dessous de ce qu'on pourrait attendre de la vie. Elle est bien pire, bien pire que tout ce qu'on peut en attendre. Et assurément, cette part de la vie qui est si misérable et si déplorable, eh bien, il y a des raisons, effectivement, de ne pas l'apprécier. C'est pourquoi le premier enseignement que nous tirons de notre texte est le suivant. Il vaut mieux être sage. Donc j'insiste quand même là-dessus et je pense que le Qohélète va dans ce sens-là. Il vaut mieux être sage dans la vie, mais la mort met les compteurs à zéro. Et il faut soutenir ces deux affirmations. Le deuxième enseignement, des versets 18 à 23, c'est que le travail est inévitablement pénible et frustrant. Donc j'en ai pas fini avec les choses négatives. Le travail est inévitablement pénible et frustrant. Des versets 18 à 23, le thème ne peut nous échapper. Et remarquez la répétition qu'on y trouve, le mot « labeur » ou le mot « peine » qui est répété à plusieurs reprises. Et nous pouvons relever trois choses qui paraissent déplorables aux yeux du Qohélète. Premièrement, se donner beaucoup de peine et ne pas savoir ce que le successeur en fera. Ça, c'est les versets 18 et 19. Se donner beaucoup de peine dans notre tâche, dans ce que nous pouvons acquérir grâce à notre travail, et ne pas savoir ce que le successeur en fera. Eh bien, le Qohélète poursuit sur le même ton que précédemment. Vous le voyez au verset 18. « J'ai fini par prendre en dégoût tout le labeur pour lequel je me suis donné tant de peine. » En fait, littéralement, il utilise le même verbe que précédemment. Il déteste, il hait tout le labeur pour lequel il s'est donné tant de peine. Et cela nous donne une bonne idée de ce que pense le Qohélète. Et il reprend ici le thème qu'il a abordé au verset 12, le thème de la succession. Puisque l'homme finit par mourir, à qui revient tout ce pourquoi il s'est donné tant de peine, si ce n'est à ceux qui viennent après lui? Alors pourquoi donc le Qohélète se met-il à haïr son propre labeur, tout ce qu'il a pu accomplir? Eh bien la réponse est au verset 19. Car qui sait s'il, c'est-à-dire le successeur, sera sage ou insensé? Pourtant, c'est lui qui disposera de tout ce que j'ai réalisé sous le soleil grâce à mon labeur, pour lequel j'ai trimé et mis en œuvre la sagesse. Cela aussi est déplorable. Celui qui travaille dans le présent n'a aucune garantie quant à l'avenir. Certains bâtissent des empires que d'autres par la suite détruisent. Aucune entreprise, aucune société n'est à l'abri d'une faillite. Et ce sera peut-être l'œuvre du successeur. Et quand j'observe les travaux qui se font en ce moment à l'IBN, je l'ai partagé un petit peu aussi avec Damaris, je constate que l'on casse ce que d'autres ont bâti. Alors on casse des murs et que d'autres ont bâti. Il y a bien des années de cela. Et pour cet exemple, je ne dis pas que c'est insensé. Je pense même qu'en termes de rénovation, c'est plutôt sage. Mais cela montre bien que ce que l'on fait aujourd'hui n'est pas forcément destiné à durer. Vous pouvez construire un mur aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain, il restera encore. Tout dépend de ceux qui viennent après et non plus de nous. Et il y a quelque chose de frustrant et de déplorable, parce qu'on n'a pas de prise là-dessus. L'être humain n'a aucun contrôle sur ce qui se fera après lui. Et c'est d'autant plus frustrant qu'il aura mis du cœur à l'ouvrage, de l'énergie, du temps, mais aussi son cœur à l'ouvrage. Tant d'efforts, tant d'énergie, tant de temps investi dans une œuvre qui peut être détruite. Rien ne nous garantit que la génération suivante préservera ce que nous avons commencé et que nous laisserons. Et malheureusement, et je ne donnerai pas plus d'exemples, mais malheureusement cela est aussi vrai des églises et des œuvres chrétiennes. Rien ne nous garantit que ce sera pérennisé. Tout dépend de ce que la génération suivante en fera. À nous de prendre cette responsabilité, de préparer la génération suivante à pouvoir préserver l'héritage que nous laissons. Deuxième chose déplorable, les versets 20 et 21, c'est se donner beaucoup de peine et laisser le fruit de son travail à quelqu'un qui n'y a pas contribué. Alors ça rejoint un peu ce qu'on a dit précédemment. Le Qohélète parle de désespoir ici, au verset 20. Vous le voyez. « Aussi j'en suis arrivé au désespoir en pensant à tout le labeur pour lequel je me suis donné tant de peine sous le soleil. » Le Qohélète repense à tout ce qu'il a fait. Et vous vous souvenez de toutes ses réalisations, nous en avons parlé dimanche dernier. Ses maisons, ses jardins, ses arbres fruitiers, ses bassins, ce jardin d'Éden qu'il a tenté de reconstituer. Alors, sans doute qu'en tant que roi, il n'a pas fait lui-même les travaux. Mais il s'est quand même donné de la peine. Il y a quand même eu de la fatigue à faire en sorte que ses idées puissent devenir réalité. Et en considérant ce labeur accompli avec sagesse, avec compétence, eh bien, il déplore en même temps le fait qu'un autre va en profiter alors qu'il n'y a pas contribué. Oui, il y a un côté déplorable, peut-être même injuste, dirait-on. On a travaillé si dur et c'est un autre qui n'a rien fait pour ça qui le reçoit. Celui qui viendra avec le Qohélète pourra profiter des maisons, des jardins, sans que cela lui aura coûté quoi que ce soit. Et l'Ecclésiaste commente au verset 21, c'est un grand mal qu'il en soit ainsi. C'est un grand mal que la réalité soit ainsi. C'est frustrant de se donner tellement de mal et de laisser ça à quelqu'un qui n'a rien fait pour. D'autant plus frustrant parce que nous ne savons pas ce qu'il va en faire. Et troisième chose déplorable, c'est le fait de se donner beaucoup de peine dans la souffrance, de travailler dur dans la souffrance. Le Qohélète pose la question du gain. À quoi bon se donner tant de mal? Qu'est-ce que nous avons à y gagner, à travailler si dur? Alors, au verset 10 de ce chapitre, la réponse était de la joie. On gagne de la joie, de la satisfaction, satisfaction du travail bien accompli, satisfaction du travail achevé, dont on pourra profiter. Mais ici, la réponse est tout autre. Et vous voyez, verset 23, qu'est-ce que l'homme y gagne? Eh bien, ses journées lui apportent bien des maux. Ses occupations lui occasionnent bien des souffrances. Et même la nuit, il ne trouve pas de repos. Cela aussi est déplorable. L'être humain travaille dur. Peut-être pas tous sur cette terre, mais on va dire la plupart. L'être humain travaille dur. Et à côté de la satisfaction éphémère, eh bien, il doit supporter les ronces et les épines. Et nous en revenons au thème de la pénibilité du travail, qui est inévitable dans ce monde marqué par le péché. Et combien de fois avons-nous éprouvé les souffrances évoquées ici? Combien d'entre nous ont manqué de sommeil à cause du travail? Non, je ne demande pas de lever la main, mais est-ce qu'on s'y reconnaît? Et que dire quand nous mettons tant d'énergie dans un projet qui finit par être délaissé? Le Qohélète exprime à quel point le travail, la peine qu'il s'est donnée, lui cause de la frustration. Et le travail est inévitablement pénible. Nous avons vu il y a 2 semaines pourquoi il en était ainsi. L'homme a péché et récolte comme malédiction de devoir travailler à la sueur de son front, avec peine. C'est ce que Dieu dit à Adam. Et je rappelle cette parole de Genèse 3, verset 17. Le sol est maudit à cause de toi. L'homme récolte ce qu'il a semé. Il a semé le péché, il a récolté la peine dans le travail. C'est une sentence dont les effets sont toujours visibles aujourd'hui. On pourrait commenter l'actualité avec la grève des acteurs et des scénaristes qui réclament aussi leur dû. Et plusieurs font grève aussi pour simplement dire on travaille si dur et on n'est pas rémunéré à la hauteur de ce que nous gagnons, de ce que nous travaillons. Et peut-être que vous avez déjà eu aussi cette pensée. Personne n'échappe à cette pénibilité, malgré tous les efforts que nous faisons pour améliorer les conditions de travail. Personne n'échappe à cette pénibilité du travail, même si nous le faisons comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Mais allons directement au troisième enseignement, avant que vous puissiez totalement désespérer. Car bien que le travail soit inévitablement pénible en cette vie, et il ne s'agit pas de chercher à éviter cela, Dieu fait preuve de bonté. Dieu fait preuve de grâce. Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans les versets 24 à 26. Au milieu de notre dur labeur, troisième enseignement, Dieu donne dans sa grâce. Et je relis ces versets qui nous font du bien. Il n'y a rien de bon pour l'homme sinon manger, boire et se donner du bon temps au milieu de son dur labeur. Et j'ai constaté que cela même vient de la main de Dieu. En effet, qui peut manger et profiter de la vie sans que cela vienne de lui? Enfin, des versets qui soulignent qu'il y a du bon dans cette vie. Le Qohélète ne manquera pas, dans la suite du livre, de répéter ce refrain sur le bonheur. Il y a du bon quand même dans cette vie. Il n'y a pas que de la peine et des souffrances. Malgré le caractère dérisoire de tout ce qui se fait sous le soleil, malgré la pénibilité du travail, Dieu donne généreusement. Dieu donne gracieusement. Dieu donne à l'homme de pouvoir profiter du fruit de son travail. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Et le Qohélète invite à considérer les plaisirs simples, comme manger et boire. C'est un bonheur de courte durée, mais vous conviendrez avec moi que les repas sont plutôt des moments agréables. Savons-nous apprécier ces moments, même si c'est une courte pause dans notre journée de travail. La pause déjeuner. Savons-nous apprécier cela ? Savons-nous apprécier cela d'autant plus que cela vient de Dieu ? Avons-nous considéré la grâce que nous avons d'avoir de quoi manger, de quoi boire, de quoi se donner du bon temps ? Comme cela nous est dit ici. Tous dans ce monde n'ont pas des privilèges aussi grands que ceux que nous avons en Occident. Je pense notamment à nos fameuses vacances et à la possibilité pour nous de voyager. Oui, nous travaillons dur et nous pouvons voyager derrière, mais tous sur Terre n'ont pas ce privilège. N'est-ce pas une grâce ? Nous sommes habitués à avoir toujours quelque chose dans notre assiette. Et la mentalité de notre siècle est « j'ai travaillé dur, je l'ai mérité ». Oui, nous travaillons dur, mais n'oublions pas pourquoi le labeur est si dur. N'oublions pas pourquoi le travail est pénible. Et ce n'est pas un cadeau. N'oublions pas qu'à des êtres désobéissants et pécheurs, Dieu ne doit rien. Et nous ne devons pas considérer que ce que nous avons dans nos assiettes est un dû, parce que nous avons travaillé dur pour ça. Dieu nous fait grâce. En ayant la possibilité de profiter de ce que nous gagnons. Et je crois que ça nous interpelle. Parce que nous sommes dans une société qui rappelle qu'on doit mériter après un dur labeur. Mais Dieu ne nous doit rien. À nous qui sommes pécheurs et désobéissants. Le Qohélète n'a pas oublié Dieu dans son bilan. Et si cette vie a encore un peu de saveur, c'est parce que Dieu est bon envers ses créatures. Si nous parvenons à gagner notre vie, comme on dit, c'est parce que Dieu est bon. Personne ne peut nous garantir que notre place au travail sera toujours stable. Regardez le nombre d'entreprises qui ont dû mettre la clé sous la porte durant la période Covid. Et le nombre de personnes qui ont fini par ne plus avoir de travail. Personne ne nous garantit que les récoltes de cette année seront bonnes. Interrogez les agriculteurs qui sont tellement dépendants de la pluie et du beau temps. Alors considérons ici les paroles du Qohélète. Il n'y a rien de bon, verset 24, il n'y a rien de bon pour l'homme sinon manger, boire et se donner du bon temps au milieu de son dur labeur. Sachons apprécier cela, tel que Dieu nous le donne. Sachons profiter avec reconnaissance de ces petits plaisirs, car ce sont des dons de Dieu qui procurent un peu de bonheur. Un peu de bonheur, par exemple, après une journée difficile au travail. Le fait de rentrer et de pouvoir manger à sa faim. Et je souligne aussi que Dieu est bon envers les non-croyants. L'apôtre Paul le dit d'ailleurs lorsqu'il est dans la ville de Lystre. Et on le lit dans Actes 14, versets 16 et 17. Voici ce qu'il leur annonce. « Dans les siècles passés, ce Dieu a laissé tous les peuples suivre leur propre chemin. Pourtant, il n'a jamais cessé de leur donner des témoignages de sa bonté, car il vous envoie du ciel la pluie et des fruits abondants en leur saison. Oui, c'est lui qui vous donne de la nourriture en abondance et comble votre cœur de joie. » Et Paul dit cela à des personnes qui ne sont pas croyantes. Et j'ouvre une parenthèse ici. Dans un article que j'ai lu, le professeur Émile Nicole attire l'attention sur une idée reçue que nous avons peut-être. Parfois, nous pouvons considérer que les non-croyants sont les plus malheureux de la terre, sous prétexte qu'ils n'ont pas l'Évangile et qu'il leur manque Jésus. Je l'ai déjà entendu, et c'est peut-être ce que nous pensons. Nous croyons peut-être qu'il suffit de dire « Acceptez Jésus et vous serez heureux ». Mais ce que disent le Qohélète et Paul, c'est qu'ils ont leur moment de joie et que cela vient de Dieu. Si leur cœur est comblé de joie, cela vient de Dieu. S'ils ont de la nourriture en abondance, cela vient de Dieu. Et sans doute que nous devrions les amener à en prendre conscience, plutôt que de leur faire croire qu'ils sont juste malheureux. Non, les non-croyants ne sont pas forcément malheureux. Surtout ceux qui ont tout ce qu'il leur faut. Et nous sommes d'accord avec le fait qu'on a besoin de leur annoncer l'Évangile, parce qu'il leur manque l'essentiel. Je referme la parenthèse. Et qu'est-ce qu'on peut dire, finalement, du verset 26 ? Le verset 26 dit ceci, « Car Dieu donne à l'homme qui se comporte bien à ses yeux la sagesse, la connaissance et la joie. Mais il impose comme occupation à celui qui fait le mal le soin de recueillir et d'amasser pour celui qui se comporte bien à ses yeux. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. » Tout comme le Qohélète voyait un avantage à la sagesse, il voit ici un avantage à bien se comporter aux yeux de Dieu. Dieu fait une distinction entre celui qui se comporte bien devant lui et celui qui fait le mal. Oui, tout à l'heure, je viens de dire, et cela fait partie de ce qu'on appelle sa grâce commune, Dieu donne aux bons comme aux méchants. Mais il fait quand même une distinction. Et ici, nous le voyons très clairement. Ayons donc confiance. Si nous sommes du côté de ceux qui cherchent à vivre comme Dieu le veut, ayons donc confiance que dans notre travail, la sagesse, la connaissance et la joie nous viendront de Dieu. Et Dieu peut faire en sorte que le pécheur qui ne tient pas compte de Dieu travaille même pour celles et ceux qui sont justes à ses yeux. Et après avoir été si positif, eh bien nous en revenons au constat répétitif que cela aussi est dérisoire. Autant courir après le vent. Alors comment comprendre cela alors qu'il a été si positif de terminer ainsi ? Oui, il faut savoir profiter des bonnes choses que Dieu donne. Et il faut vraiment en profiter à fond. Mais notre condition humaine garde malgré tout son caractère dérisoire. Le Qohélète le rappelle une fois de plus ici, à la fin de ce verset. Oui, il y a quand même quelque chose qui reste dérisoire dans cette vie. Et si nous sommes chrétiens, bien sûr, nous avons l'espérance d'un monde meilleur, d'un monde nouveau, d'une nouvelle terre et d'un nouveau ciel, avec l'assurance que nous en ferons partie. Mais présentement, à l'instant où je vous parle, nous vivons dans ce monde marqué par le péché. Nous sommes dans le pas encore. Et nous devons considérer cette conclusion du Qohélète. Cela aussi est dérisoire. Autant courir après le vent. La vie, l'enquête. Voilà, on est arrivé au bout de cette enquête. Trois enseignements que je rappelle. Premièrement, il vaut mieux être sage dans la vie, mais la mort met les compteurs à zéro. Deuxièmement, le travail est inévitablement pénible et frustrant. Et troisièmement, au milieu de notre dur labeur, Dieu donne dans sa grâce. Et toutes ces affirmations correspondent à la vie telle qu'elle est, telle que nous la vivons. Et nous avons terminé avec l'idée de grâce. Et c'est là-dessus que j'aimerais terminer aussi. Oui, quand Dieu donne, il donne par grâce. Quand Dieu donne, il donne par grâce. Et par le Saint-Esprit qui nous éclaire, nous avons conscience de cette grâce de Dieu envers nous. Et cela fait penser à un autre don. Bien plus que manger, boire ou avoir du bon temps, soyons encore reconnaissants pour le don par excellence. Dieu qui donne son Fils, Jésus-Christ, pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que nous puissions croire en lui, afin que nous ayons confiance que par sa mort et sa résurrection, il nous sauve et nous donne la vie éternelle. Considérez que quand Dieu nous donne de quoi manger, de quoi passer du bon temps, cela constitue un bonheur éphémère, de courte durée. Mais quand Dieu donne Jésus, son Fils unique, il le donne pour un bonheur éternel. Alors rien n'est comparable à ce don. Et dans sa grâce, Dieu nous a fait ce don. Alors oui, quand Dieu donne, il donne par grâce. Et nous avons ce privilège de pouvoir avoir conscience de la grâce de Dieu envers nous. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Comme nous l'avons chanté, tu es le Dieu de toute grâce. Et nous voulons te remercier, particulièrement parce que, au milieu de notre condition humaine si difficile, si déplorable, il y a du bon qui vient de toi. Et nous voulons te remercier parce que, c'est vrai, le don suprême que tu nous as fait, c'est Jésus-Christ, qui nous garantit un bonheur éternel. Un bonheur que nous ne vivons pas encore présentement, pas dans sa totalité, mais que nous espérons. Et nous voulons te prier encore, Seigneur, que tu nous accordes toute la lucidité nécessaire pour voir la vie telle qu'elle est. Il y a bien des échappatoires qui nous sont proposés dans ce monde. Mais donne-nous de ne pas saisir ces échappatoires, d'accepter finalement, d'accepter la condition dérisoire qu'est la nôtre, de considérer que tout cela est dû au fait qu'il y a eu la chute et que nous sommes aussi, pour notre part, responsables de l'état des choses. Et bien que le travail soit pénible, Seigneur, nous voulons te remercier parce que, oui, tu nous donnes de quoi profiter de notre travail. Peut-être pas autant qu'on pourrait le désirer, parce qu'il y a bien des frustrations, parce que le bonheur ici-bas est éphémère, mais tu nous donnes dans ta grâce, à nous qui sommes pécheurs et désobéissants. Alors, nous te prions tout simplement, Seigneur, que tu nous accordes profiter de ces biens que tu nous donnes jour après jour. Non pas comme un dû, mais vraiment comme une grâce qui vient de toi. Et tout cela, nous te le prions au nom de Jésus. Amen.